France Inter,
franceinter.com.
La vie a perdu contre la mort, mais la mémoire gagne toujours dans son combat contre le néant. Svetlan Todorov, dans le livre noir du communisme. Ans d'histoire. Qui aurait pu imaginer qu'une poignée de Bulgares venus du fond de l'Asie à la fin du 5e siècle puisse construire en moins de 200 ans dans les Balkans un des États les plus puissants de l'Europe médiévale, l'empire du tsar Siméon Ier qui s'étendait du Danube à la mer Égée et de la mer Noire à l'Adriatique, un empire éphémère qui disparut un jour, submergé comme tous les peuples chrétiens des Balkans, par 5 siècles d'occupation turque. Redevenue indépendante en 1908, la Bulgarie n'a jamais retrouvé sa grandeur passée. Elle est même aujourd'hui l'État le plus pauvre des 27 pays de l'Union européenne. Audrey Pulvar avant-hier dans le journal de France 3.
Bucarest en Roumanie et Sofia en Bulgarie, les deux pays font partie depuis minuit de l'Union européenne qui compte désormais 27 membres et près de 500 millions d'habitants. Carole Coelho.
À Sofia, les fameuses voix bulgares, et là, l'Europe, ça se chante. C'est à marche forcée que les Bulgares entendent se hisser au niveau des critères européens. Mais ce ne sera pas facile. La Bulgarie est le pays le plus pauvre de l'Union. Le salaire moyen est de 135 euros seulement. Mis à part la capitale, dans le reste du territoire, les infrastructures et les technologies sont obsolètes. En Bulgarie, ce technicien pleure, car sa centrale nucléaire a fermé hier. Problème de sécurité, elle était devenue beaucoup trop dangereuse. Mais l'avantage maintenant, pour ses nouveaux membres, c'est que pour voyager dans le reste de l'Union, plus besoin de visa. Pour cette jeune femme, sa carte d'identité suffira.
François Frison-Roche, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au CNRS et ancien conseiller du premier président bulgare à avoir été élu au suffrage universel en 1990, dans un pays dont on vient d'entendre qu'il entrait dans l'Europe un des plus pauvres qui soit, et dont on oublie qu'il y a très longtemps, il faut dire, c'était un grand État, une grande puissance européenne. C'était il y a 10 siècles, il est vrai, mais c'était à l'époque de Siméon Ier que j'ai cité tout à l'heure.
Oui, en effet, la Bulgarie a une histoire tout à fait prestigieuse et je crois que justement ça sera pour les Européens façon de voir que l'Europe ne se réduit pas simplement peut-être l'histoire des empires français ou allemands ou austro-hongrois. Un pays comme la Bulgarie a une histoire qui fait partie de l'histoire européenne, et en effet, l'empire de Siméon fait partie de cette histoire.
Presque tous les Balkans à l'époque.
Oui, exactement. C'est la grande Bulgarie que, évidemment, l'historiographie nationale bulgare a eu tendance à magnifier et à considérer comme, j'allais dire, une zone peut-être bulgare au sens peut-être qu'on entend aujourd'hui, ce qui n'est quand même pas la vérité, mais qui montre que les Bulgares ont surtout une histoire qui remonte à très loin et qu'ils ont tout à fait leur place, j'allais dire, dans cette Europe d'aujourd'hui.
Alors une histoire qui est interrompue, la Bulgarie disparaît d'ailleurs comme tous les pays balkaniques à l'époque, ou tous les peuples en tout cas qui étaient chrétiens, qui pour la plupart sont orthodoxes, submergés par 5 siècles de présence ottomane et une présence qui a été plus ou moins dure selon les pays, mais assez dur en Bulgarie, parce que les Bulgares non seulement étaient sous tutelle de l'Empire ottoman, mais occupés par les Turcs. D'ailleurs, c'est peut-être la raison pour laquelle, aujourd'hui, il y a une forte minorité turque en Bulgarie.
Oui, tout à fait. La minorité turque actuelle j'allais dire, pour origine, cette occupation ottomane. Ce qui fait d'ailleurs qu'au bout de maintenant 5 à 6 siècles, on peut parfaitement estimer que les personnes qui sont d'origine turque sont des Bulgares. Car on peut imaginer si un Français avait vécu sur une terre pendant 5 siècles, eh bien il se sentirait véritablement partie prenante de cette terre. Donc ce n'est pas, pour reprendre problème de l'immigration turque, une immigration récente, comme on peut connaître dans certains pays européens, c'est une immigration ancienne, d'implantation ancienne. C'est évidemment l'aboutissement d'une domination très dure parfois. Je voudrais juste rappeler que certaines églises bulgares sont à moitié enterrées, car les églises chrétiennes orthodoxes ne devait pas dépasser le minaret de la mosquée, et donc on voit encore des églises à moitié enterrées, ce qui montre qu'il y avait véritablement une domination ottomane. Alors évidemment, cette domination pendant 5 siècles a produit un certain nombre d'effets, mais on aura l'occasion d'en reparler.
Ah, très brutal, notamment à la fin, lorsque se réveillent autour d'ailleurs de leur langue qu'ils ont gardée, de leur religion orthodoxe qu'ils ont conservée, eh bien ce sentiment national qui les fait se soulever en 1876, un soulèvement écrasé très brutalement par ces espèces de mercenaires qui travaillaient pour les Turcs, qu'on appelait les Bachibouzouk, hein, et qui ont massacré, notamment tous les Bulgares le savent, un village bulgare qui avait le village de Batak, je crois, où toute la population a été éliminée. Alors les Russes viennent au secours des Bulgares par solidarité religieuse, parce que ce sont des Slaves. Ils favorisent l'autonomie de ce pays, qui devient indépendant en 1908, qui devient une monarchie même. Mais alors, si les Bulgares ont acquis leur indépendance, en revanche, pas forcément la liberté, les rois qui se sont succédés sur le trône de Sofia n'étaient pas très tendres. En tout cas, c'était des monarques autoritaires.
Oui, quoi qu'il faut faire la distinction entre les monarques et puis aussi les intérêts des grandes puissances. Alexandre de Battenberg, le premier, était le neveu du tsar. S'il y avait des intérêts stratégiques importants, il a été amené à partir et a été remplacé par un autre monarque, donc un Saxe-Cobourg, qui est l'arrière-grand-père de Siméon II de Bulgarie. Évidemment, cette période pourrait être considérée comme dictatoriale. Moi, je parlerais plutôt d'autoritarisme. Et ça s'inscrit dans un contexte à la fois régional et européen. Il faut se souvenir que la Bulgarie est indépendante au début du XXe siècle. Et cette monarchie n'a duré que jusqu'en 1946-1947. Donc, il faut voir qu'en Europe, c'est aussi la montée du fascisme, la montée du nazisme, etc.
Donc, alors, justement, une monarchie qui, en 14-18, se bat du côté des puissances centrales, donc est considérée comme un pays vaincu en 1918, et un pays qui, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, au début même de la Deuxième Guerre mondiale, fait le même choix en ouvrant ses portes à l'armée allemande en 1941.
En Bulgarie, malgré les difficultés du terrain, les troupes allemandes occupent tout l'école des Balkans. Les soldats sont partout l'objet de manifestations de sympathie de la part de la population bulgare. Le pain et le sel, symbole de l'hospitalité.
Et oui, quand l'armée allemande entre en Bulgarie en 1941, François Frison Roche, c'est pas du tout un envahisseur, c'est un allié à l'appel, ou en tout cas avec l'accord du roi Boris III.
Oui, Boris III a été finalement obligé. Les Allemands visaient quand même la Yougoslavie et la Grèce pour des raisons stratégiques. Et Boris III n'avait pu empêcher que l'Allemagne intervienne. Donc, plutôt que de tenter éventuellement une riposte, eh bien, il n'a malheureusement pas pu faire autrement que d'accepter ce fait, surtout qu'il y avait quand même un gouvernement à l'époque très pro-allemand, dirigé par un historien, Bogdan Filov, qui était quand même très pro-nazi, disons-le. Et donc le roi n'a pas pu s'empêcher, n'a pas pu empêcher cette invasion. Maintenant, il s'est quand même opposé à Hitler, il faut quand même l'indiquer.
Oui, d'abord, il est plus prudent que, par exemple, les Roumains, hein, qui, eux, ont envoyé, on l'a dit hier, des troupes pour se battre aux côtés des Allemands en Russie. Là, dans le conflit germano-russe, Boris III est resté neutre. Il a refusé d'envoyer des Bulgares se battre aux côtés de l'armée allemande. D'autre part, également, il a les Juifs de Bulgarie sont pratiquement les seuls dans les Balkans à ne pas avoir été déportés.
Exactement. Et là, je crois que cela va certainement donner du travail à tous les historiens, car il va falloir certainement revoir un petit peu cette histoire balkanique qui a été un petit peu accaparée par les historiens locaux dans une période quand même 50 ans de communisme. On ne peut pas dire que les historiens avaient la distance nécessaire pour aborder un certain nombre de problèmes. C'est vrai que Boris III a en effet empêché que les Juifs bulgares soient déportés. Il n'empêche que quand même c'est un mouvement qui est venu des Bulgares. Il m'a été donné de faire des recherches à Paris, au centre de recherche, au centre de documentation juive. On peut voir que les bourgades, les représentants dans certaines villes, écrivaient des lettres pour dire non, les Juifs sont nos compatriotes et il ne faut pas les déporter. Et donc finalement, Boris III a pris la décision de ne plus regrouper les Juifs à Sofia pour être déportés, mais au contraire de les envoyer en province.
Et puis il y a aussi l'existence d'une résistance animée notamment par le communiste bulgare Dimitrov qui va accéder au pouvoir avec son parti lorsque l'armée rouge pénétrera en Bulgarie et mettra en place un nouveau régime dont le ministre des Affaires étrangères, Koulitchev, était à Paris en 1946.
Nous, les hommes de la nouvelle Bulgarie, nous ne voulons nullement amoindrir les crimes de ceux qui ont jeté notre pays dans la guerre aux côtés de l'Allemagne. L'alliance honteuse avec celle-ci, la déclaration de guerre à l'Angleterre et aux États-Unis, la transformation de la Bulgarie en base militaire pour Hitler et les agissements de la clique pro-hitlérienne qui plus tard ont amené l'Union soviétique à déclarer la guerre à la Bulgarie, voilà autant de crimes dont les auteurs responsables ont été sévèrement punis par le tribunal populaire. Et nous sommes sûrs d'être compris de tous ceux qui connaissent les longues luttes de notre peuple contre la dictature fasciste et la résistance farouche qu'il a opposée au plan d'asservissement de notre pays par l'Allemagne hitlérienne.
Marche des brigades du travail de la jeunesse bulgare en 1948, à un moment où les Bulgares, et pas seulement les jeunes, étaient mis au pas par le parti communiste de Bulgarie, se met en place, comme dans tous les pays au-delà du rideau de fer, à l'est du rideau de fer, une démocratie populaire alignée sur l'URSS de Staline, François Frison-Roch.
Oui, et de manière très brutale. Les communistes bulgares ont procédé à un certain nombre d'exécutions immédiates, notamment les trois régents. Ils ont épargné le petit roi Siméon, qui à l'époque était mineur. Mais
il
partira en exil après le référendum qui proclamera la République. Mais auparavant, il fusille les trois régents, il fusille un certain nombre de gens. On parle, pour l'instant, car peut-être que les historiens auront éventuellement à redire là-dessus, mais on parle de 2138 condamnations à mort immédiatement après l'arrivée des communistes au pouvoir. Donc oui, ça a été très brutal et ils ont très vite imposé le système communiste, notamment vis-à-vis des politiques bulgares qui n'étaient pas favorables aux communistes, mais qui n'étaient pas automatiquement des monarchistes. Il y avait les agrariens, il y avait les sociodémocrates qui sont tous passés, j'allais dire, par la moulinette.
Un régime de fer qui va provoquer l'exil d'un grand nombre de Bulgares, dont l'une est devenue très célèbre en France, Sylvie Vartan, qui en 1952 suivait son père en exil en quittant la Bulgarie et la rivière près de laquelle elle était née.
premières années, il ne me reste plus rien, rien. Et pourtant, les yeux fermés, moi j'entends mon père chanter ce refrain. La, la.
La Maritza, une belle chanson écrite par Pierre Delanoë pour Sylvie Vartan, venue en France en 1952 avec son père. C'est pas la seule d'ailleurs qui est émigrée, qui quittait ce pays. Il y a de célèbres Français ou Bulgares, Français d'adoption. Qui
exactement, exactement. Il y a, vous l'avez indiqué tout à l'heure, Tsétan Todorov.
Avec cette belle phrase, mais la mémoire gagne toujours dans son combat contre le néant.
Bon, il y a aussi une Bulgare éminente, connue par le monde, c'est Julia Kristeva. Il y a aussi le pianiste Alexis Weissenberg. Voilà, il y a un certain nombre de Bulgares très connus et qui ont réussi à aussi défendre un petit peu l'image de la Bulgarie.
Et sans oublier leur pays d'origine qu'ils quittaient au moment où arrivait au pouvoir un homme qui est resté 34 ans, je crois, à la tête de la Bulgarie, le secrétaire général du Parti communiste, qui était Todor Živkov, hein, qui, alors lui, c'est un record.
Ah oui, lui, c'est un record parce que il a été choisi bien juste après la mort de Staline, et il a su naviguer pendant toute la période khrouchtchevienne pour se maintenir au pouvoir en ayant une attitude, j'allais dire, c'est-à-dire qu'il s'entourait de gens qu'il faisait tourner, et il maintenait comme ça toujours sa propre hégémonie au sein du parti, et il a pu comme ça se maintenir jusqu'en 89, où il a été quand même finalement renversé.
Mais alors, en alignant son pays dans tous les domaines sur l'Union soviétique, sur le plan économique, engageant la Bulgarie à marche forcée dans l'industrialisation, elle qui n'était pas un pays industriel mais à vocation agricole, et puis un allié très discipliné, qui ne s'est jamais rebellé contre l'URSS. La Bulgarie la soutient en 1956, quand elle écrase la révolution hongroise, en 1968, quand elle fait la même chose en Tchécoslovaquie, en 1979 en Afghanistan. Elle a même un service secret très célèbre, qui va vraiment travailler pour le compte du KGB, qui s'est rendu célèbre, François Fillon-Roche, par ce fameux parapluie bulgare.
Oui, ça fait partie des mauvais souvenirs que tout le monde connaît, qu'il n'est pas automatiquement peut-être obligé de rappeler à chaque fois qu'on parle des Bulgares. Je voudrais dire en effet...
C'est bien réel, hein, c'est ce parapluie avec une pointe empoisonnée avec lequel les services secrets quand même bulgares ont éliminé quelques opposants à l'étranger, notamment à Londres.
Oui, oui, bien sûr. L'écrivain Georgi Markov, qui était un opposant au régime, a été en effet éliminé. Et je dois dire, parce que c'est une anecdote tout à fait révélatrice, le jour de l'anniversaire justement de Živkov. C'est une tradition et c'est un code dans ces pays. En Bulgarie, d'après-guerre, Nicolas Petkov avait été pendu le jour anniversaire, je crois, de Staline. Et il y a encore très peu de semaine, il y a une dissidente russe qui a été abattue le jour anniversaire de M. Poutine. Je crois qu'il y a là, en effet, des codes propres à ces pays. Voilà, c'est vrai, la Derjana Sigournos bulgare était très afféodée au service soviétique et a été la représentante zélée d'une dictature.
Alors, d'une dictature qui est évidemment ébranlée, comme toutes les dictatures de l'Est, par la glasnost, par la perestroïka de Gorbatchev, que Živkov essaye d'éviter, comme tous les dirigeants des pays de l'Est, ce qui va sans doute provoquer sa chute, en même temps d'ailleurs que le mur de Berlin. France Inter, Fabrice Drouel, le 11 novembre 1989.
Autre coup de théâtre de la journée d'hier. La Bulgarie qui, à son tour, ressent les effets de la mutation des pays de l'Est. Todor Živkov, l'un des monstres sacrés du communisme est-européen, démissionne. Il est remplacé par Peter Mladenov, qui propose d'ores et déjà d'engager le dialogue et de procéder à des réformes. Jacques Expert.
Peter Mladenov. Mladenov est un homme d'appareil qui a grandi à l'homme de Todor Ivkov, dont il était le ministre des Affaires étrangères depuis 1971. Depuis quelque temps déjà, il avait pris ses distances avec le vieux maître du pays, au point qu'on le disait en disgrâce. Mais ce n'est cependant pas un homme à la réputation de réformateur qui accède au pouvoir. Il y a quelques jours, en voyage officiel à Pékin, il faisait même part de son inquiétude sur les changements à l'Est. Ce n'est donc pas un révolutionnaire qui arrive au pouvoir, mais c'est surtout un homme jeune, considéré comme davantage capable que le vieillissant Jivkov d'affronter les bouleversements qui frapperont tôt ou tard la Bulgarie. Vienne, Jacques Expert, France Inter.
Et c'était en 1989, une très mauvaise année pour les dirigeants des pays de l'Est, puisque en même temps, presque partout, ils disparaissent dans des révolutions. Dans le cas de la Bulgarie, c'est plus une révolution de palais qu'une révolution, François Fillon-Roche.
Oui, tout à fait. Jivkov est renversé d'abord avec l'aval de Gorbatchev en URSS. Mladenov s'en est livré à Alexandre, au ministre des Affaires étrangères français de l'époque, M. Roland Dumas, en lui disant qu'il allait se passer des choses à Sofia. Et évidemment, le mur tombe le 9 et le 10, Jivkov est admis à la retraite.
Et démissionné, accusé de corruption, de tas de choses.
Oui, ouais. Par la suite, on a essayé de trouver un certain nombre de justifier. Il n'empêche que Jivkov apparaissait comme quelqu'un encore de puissant, et surtout, il connaissait beaucoup de choses, ce qui fait que même les communistes qui l'avaient mis de côté n'ont pas trop voulu le faire comparaître devant un tribunal.
Et oui, parce que ces communistes, ils restent en fait au pouvoir. Le parti va changer de nom. Il pratique un certain nombre de réformes, il ne peut pas faire autrement, et notamment quand même une véritable révolution, un an après, même pas quelques mois à peine après la chute de Jivkov, des élections libres, les premières sans doute que les Bulgares aient jamais connues de leur histoire, celle d'un président de la République que vous connaissez bien, François Fillon-Roche, puisque vous étiez son conseiller en 1990.
En effet, président Jeljeljev est arrivé au pouvoir d'abord comme leader de l'opposition anticommuniste. Et ensuite, c'est un dissident, c'est un philosophe dissident qui avait été écarté dans les années 60 pour ses positions anti-léninistes et qui avait été relégué en province pendant 7 ans. Donc à ce moment-là, il avait écrit un livre qui est très connu dans le pays sur le fascisme, car évidemment les gens pouvaient lire entre les lignes que le régime communiste avait énormément de ressemblances avec la structure de l'État nazi ou fasciste ou franquiste, puisque c'était les exemples que prenait Jeljeljev. Pour en revenir à cette période. Les communistes, en effet, finalement, partageaient le pouvoir, mais ils ne l'ont certainement pas quitté. Vous dites qu'il y a eu des élections libres. Oui, les élections ont été pluralistes. Les mentalités, les moyens de pression existaient toujours. J'étais sur place, je peux vous dire qu'il y avait les moyens de pression considérables. Et d'ailleurs, ce sont les anciens communistes qui ont gagné les élections.
Et les communistes qui ne parviennent pas à empêcher une grave crise économique qui allait provoquer une énorme surprise, la victoire en 2001 de l'ancien roi de Bulgarie, Siméon II, revenu dans son pays après 50 ans d'absence, RFI Alain Masson, le 5 mai 1996.
Tsar Siméon, Tsar Siméon, surgit de plus de 100 000 poitrines, ce cri accompagne le retour du monarque tout au long de son entrée à Sofia. Dans une joyeuse bousculade, l'exilé livre ses premières impressions de retour en terre natale.
Ça vous encourage à rester, à prendre un rôle ici?
Et je disais à mes compatriotes, c'est eux qui sont les maîtres de maison. C'est le gouvernement, c'est la Bulgarie elle-même. L'hospitalité dépend du maître de maison plutôt que de l'invité. Alors on verra bien.
Un roi exilé qui rentre dans son pays pour lutter contre la corruption et la pauvreté. C'est presque un conte de fées moderne qui devient réalité ce soir en Bulgarie, avec la victoire attendue aux élections législatives du mouvement national Siméon II. Il ne s'agit pas pour Siméon II de restaurer la monarchie, mais de créer une coalition pour évincer les anciens communistes au pouvoir.
Et Siméon II, qui devenait donc Premier ministre après la victoire de son parti aux élections de 2001 et 5 ans après son retour en Bulgarie, c'est quand même assez extraordinaire cette espèce de retour en arrière, François Fillon-Roche, un roi qui en plus devient Premier ministre alors que le président de la République, au même moment, était un ancien communiste. On a rarement vu des cohabitations pareilles.
Oui, c'est tout à fait extraordinaire. C'est même unique au monde qu'un ancien monarque puisse revenir à 50 ans de distance et gagner des élections parfaitement démocratiques.
Il perdra les suivantes.
Il restera, son parti restera quand même la deuxième force politique et il fait partie de la coalition actuelle. Donc ce n'est absolument pas un désaveu quand même en 2005 au moment des élections législatives suivantes. Mais c'est vrai qu'en 2001, Siméon fait un retour et c'est absolument unique de voir un ancien monarque revenir et prendre poste de Premier ministre finalement. Si l'on en croit les commentaires des institutions financières internationales, il a quand même très bien réussi. Et d'ailleurs, maintenant, son parti participe à la coalition gouvernementale avec les socialistes qui ont gagné. Et la politique reste, j'allais dire, quasiment la même. Et surtout, il est celui qui aura fait rentrer la Bulgarie dans l'OTAN en 2004 et dans l'Union européenne, puisque il a signé le traité d'adhésion en 2005, même si la Bulgarie est rentrée en 2007, au 1er janvier 2005.
Il y a trois jours. Alors justement, qu'est-ce qu'elle peut attendre de cette Union européenne, elle qui est quand même un des États les plus pauvres d'Europe, et qu'est-ce qu'inversement l'Europe peut attendre de la Bulgarie, l'Union européenne?
Pour ce que l'Europe peut attendre, je crois que c'est d'abord prendre conscience que l'Europe ne s'arrête pas aux frontières, j'allais dire, d'après la Seconde Guerre mondiale. L'Europe, c'est un ensemble qui comprend les Balkans. Et donc, voilà, je pense que ça sera un apport considérable de cette région et de la Bulgarie. Maintenant, ce que la Bulgarie attend de l'Europe, c'est justement les normes européennes de démocratie, d'économie de marché, de discipline, car les Bulgares sont maintenant depuis 8-9 ans forcés de respecter un certain nombre de rôles, de respecter un certain nombre de règles, et les gens attendent beaucoup pour assainir la situation politique en général et évidemment profiter d'une certaine prospérité économique.
Merci François Frison-Roche. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'une thèse qui a été publiée aux éditions Bruylant, le modèle semi-présidentiel comme instrument de la transition en Europe post-communiste, publié donc aux éditions Bruylant. Je signale aussi que vous participez au comité de rédaction de la Lettre du Colisée, le comité de liaison pour la solidarité avec l'Europe de l'Est. Pour plus d'informations, on peut consulter le site colisée.org. À lire également, vous me l'avez recommandé, L'Europe balkanique de 1945 à nos jours de Bernard Lory, publié aux éditions Ellipse. Et enfin, une exposition, L'or des traces, au musée Jacques Marandré. Les traces, il faut le rappeler, qui sont les premiers habitants, en tout cas les plus anciens, avant les Bulgares, de ce pays dont nous avons parlé, la Bulgarie. Vous avez pu entendre une archive de 1941 extraite des archives de guerre de Marc Ferraud, disponible en DVD aux éditions Nouveau Monde INA. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Pascal Baldassari et Clotilde Thomas, Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Catherine Nouy, et à notre réalisateur Philippe Rouy. Demain, dans 2000 ans d'histoire, un des plus célèbres brigands, justement, de l'histoire, on l'appelait Cartouche, et c'était au XVIIIe siècle.